Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Une nouvelle édition de l'heure du crime avec Perrine Suquet, Margot Agnès, Marc Bisset, l'équipe de choc. Donc, pour vous raconter des histoires épouvantables, comme d'habitude, que nous allons chercher dans un lointain passé aujourd'hui. Enfin, lointain passé, oui, dans les siècles précédents, 19e et 20e siècle principalement, avec un invité, je le disais tout à l'heure, historien passionné d'histoire criminelle, Bernard Hautecloque. Bonjour.
Bonjour Jacques Pradel.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes l'auteur d'une maison d'édition, la maison de Boré, qui est presque une maison livre de chevet pour nous, parce que c'est, je crois, ma connaissance, quasiment la seule en France, à avoir entrepris, il y a maintenant bon nombre d'années, une sorte de tour de France du crime, en passant par un maximum de départements et de régions. Et là, vous signez le dernier qui vient de paraître sous votre signature, s'intitule « Les grandes affaires criminelles » de Haute-Saône et du territoire de Belfort. Alors, je dirais à ceux qui nous écoutent et qui sont pas bons en géographie, on est dans la région, on va dire, de Besançon, de Montbéliard, de Vesoul.
Le nord de la Franche-Comté, on est entre les Vosges et le Jura.
Voilà, et il y a donc, en fait, vous avez ramassé également dans ces affaires-là, le territoire de Belfort, qui est un lieu, alors, pour la criminalité, en tout cas, très intéressant.
Hein. C'est un lieu très intéressant. Bon, il faut préciser que le territoire de Belfort étant trop petit pour avoir sa propre cour d'assises, les criminels sont jugés à Vesoul, d'où l'idée presque qui s'imposait de raconter, de mélanger ces deux départements. Mais effectivement, c'est un territoire pas très connu, disons-le, mais extrêmement intéressant au regard de l'histoire criminelle.
Voilà. Alors, bien sûr, il y a toute la palette des émotions humaines et des passions humaines. On va y revenir dans un instant. Un des grands mérites de vos livres, et de celui-là en particulier, c'est de nous montrer le fonctionnement des cours d'assises. Il faut savoir quand même que la plupart des histoires que vous racontez, c'est à l'époque où on risquait d'avoir la tête tranchée. Il y avait la guillotine. Quand il n'y avait pas la guillotine et qu'on avait des circonstances atténuantes, c'était les travaux forcés à perpétuité, et c'était le bagne.
Absolument. Alors, ceux qui avaient le plus de chance s'en tiraient avec des peines de prison à purger en métropole, mais pour la plupart des hommes, c'était la déportation en Nouvelle-Calédonie jusqu'à la fin du 19e siècle, et surtout à Cayenne,
bien sûr,
au bagne de Guyane.
Voilà, où certains, beaucoup n'en revenaient pas, parce que c'était quand même des conditions très dures. Hein.
Alors bon, il y a eu toute une étude sur la guillotine sèche, comme on appelait le bagne de Cayenne.
Ouais.
Deux têtes, 60% mouraient 5 ans après leur arrivée. Il n'y en a pas 3% qui sont revenus en métropole.
À l'issue de leur peine.
Même après avoir purgé leur peine.
Ouais, et souvent, il y avait même la double peine ou la triple peine, puisque
la relégation,
ils étaient obligés de rester libres, mais de rester là-bas. Quoi.
C'est ça. Bon.
Alors, le fonctionnement des cours d'assises était très différent également. Il y avait 12 jurés, 3 magistrats, d'abord.
Une loi de 1811 a effectivement obligé chaque département à organiser une cour d'assises. 12 jurés.
Au moins une fois par an, hein, vous dites.
Exactement.
Tu es peut-être
12
un peu
jurés électeurs. Alors, détail, jusqu'en 1848, suffrage censitaire, être électeur, c'était être notable.
D'accord. Ouais.
Et jusqu'en 1945, c'était être un homme. Mm-hmm. Donc, on a des jurys uniquement masculins et, au moins pendant le 19e siècle, des jurés plutôt de notables.
Ouais. Mais alors, le travail des jurés, c'était de décider si quelqu'un était coupable ou non coupable, mais ça s'arrêtait là.
À peu près. Ouais. Les douze jurés populaires, effectivement, décidaient si l'accusé était coupable ou non, s'il avait mérité les circonstances atténuantes ou non. Mmh. Et c'est seulement dans un deuxième temps que les 3 magistrats professionnels conféraient sur la peine à appliquer.
D'accord.
Donc vous aviez une délibération en 2 temps.
Les femmes, on leur coupait moins la tête qu'aux hommes quand même.
Alors, jusqu'au milieu du 19e siècle, les femmes, 1 guillotiné sur 10, c'était une femme. Bon, à partir du Second Empire, les condamnations et surtout les exécutions se sont raréfiées. En 1887, en Loir-et-Cher, une exécution tellement épouvantable a frappé les imaginations au point que, loi non écrite, les femmes continuaient à être condamnées à mort, mais automatiquement, on les graciait.
Oui. Ça, on commuait la peine en travaux forcés.
C'est cela même. Elle purgeait en métropole, elle n'était pas déportée au bagne.
D'accord. Alors, voilà, donc je voulais parler de ça au tout début de l'émission, parce que il y a ça qui nous apprend beaucoup de choses sur le fonctionnement de la justice. Il y a également, même si les passions humaines n'ont pas changé depuis tout au cours de ces siècles, ça nous raconte comment on vivait dans les villes et dans les campagnes de la France profonde. Et on va faire une première pause tout de suite, et puis on va vous raconter une première histoire. Alors, les passions humaines, je les énumérais tout à l'heure, c'est l'amour, l'argent, la haine, le sexe, l'alcool souvent est quand même en toile de fond de tout cela. Et dans un instant, c'est un drame de l'alcool que l'on va vous raconter. Ça s'est passé une nuit d'horreur ou un matin d'horreur dans une maison de garde-barrière.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Avec l'invité de l'heure du crime, l'historien Bernard Haute-Cloque, qui signe les grandes affaires criminelles de Haute-Saône et du territoire de Belfort aux éditions de Boré. Alors on va commencer à remonter le temps ensemble, on va pas aller très loin finalement, puisqu'on est à la fin des années 60, hein, juste
1967.
Avant, voilà, 67, et pourtant on va vous parler d'un temps que beaucoup de ceux qui ont de la jeune génération n'imaginent même pas, peut-être certains d'entre vous, d'entre eux ont vu en passant un passage à niveau automatique, les vestiges ou les ruines d'une vieille bâtisse, ben c'était la maison du garde-barrière. Oui. Et des garde-barrières, il y en avait tout au long des lignes de chemin de fer. Il y en avait des milliers en France. Et le cadre du drame que nous allons raconter, c'est justement la maison d'une garde-barrière.
Le PN 220 sur la ligne Paris-Bâle, voilà, sur la commune de Châtenois.
Au kilomètre 396. Alors au centre de cette histoire, il y a un personnage qui a été appelé, bien que ce ne soit pas son identité véritable, Monsieur Marcel, mais c'est vrai qu'à Pigalle, en général, on aime bien les formules assez courtes comme ça.
On n'a que des prénoms et bon. Être Monsieur, ça vous pose un homme.
Alors Monsieur Marcel, c'était un proxénète, hein, disons-le, qui a tenu le haut du pavé à Pigalle dans un hôtel qui avait un nom génial d'ailleurs.
Le Mignon Hôtel. Ça ne s'invente pas.
Et c'était alors donc c'est un type qui est de cette région-là, hein, et même de cette ville-là, Châtenois, ou à côté.
Non, pas tout
quoi.
À fait. Il était de la région de Grès. Mais enfin, c'était un petit voyou qui, pendant l'occupation, a pu s'enfuir à Paris, a réussi à se faire une place dans le milieu et est devenu un proxénète, je dirais, de deuxième zone. Non pas une étoile du crime, mais un monsieur avec lequel il fallait compter.
Alors, il avait eu assez d'intelligence pour pas basculer du côté des Allemands. Il a échappé donc à l'épuration. Hein.
Il a bien
et
le
voyé. Et puis là, surtout, donc, il avait quelques mètres de trottoir à Pigalle, un certain nombre de femmes qui travaillaient pour lui, quoi.
Hein.
Et puis, il allait souvent au bistrot, quand même. Hein.
Il avait une bonne descente d'alcool et il en profitait bien.
Et alors, l'élément déclencheur qui, finalement, explique le drame qu'on va raconter tout à l'heure, parce que on dit, mais pourquoi en 1967 il y a eu une tuerie dans une maison de garde-barrière? En fait, ça commence à Paris, sur un trottoir de Paris, parce que Monsieur Marcel a décidé de corriger l'une de ses, je sais pas comment il faut les appeler,
de ses employés. Je sais même pas sûr qu'il l'ait décidé. Je crois que c'était une pulsion, parce que il était très, comment dire, courant que les proxénètes corrigent leurs procédures, mais ça se passait en privé.
Oui.
Lui, il a pas su se retenir, ça s'est passé sur un trottoir.
Parce qu'elle, elle avait dit, bon, j'arrête le métier, quoi. En fait, je veux récupérer ma liberté, quoi.
Absolument. Alors, monsieur Marcel l'a très, très mal pris. D'ailleurs, de son point de vue, s'il l'avait laissé partir, ça voulait dire qu'il perdait toute autorité sur le reste de son cheptel et par rapport aux autres proxénètes. Donc, pour, maintenir son standing...
Il fallait qu'il règle...
Il lui envoie des coups de ses belles chaussures italiennes à deux tons dans les côtes. Il lui envoie ses bagues dans la figure.
Tout ça en public, sur un trottoir parisien.
Alors, bon, le quartier avait beau être ce qu'il était. Nous sommes à la fin des années 40. Un quart de police secours passe. Ils peuvent pas ne pas intervenir. On embarque tout le monde. Alors, la fille n'est pas assez folle pour porter plainte. Mais, bon, flagrant délit. 6 mois de prison. C'est pas méchant. Mais, surtout, interdiction de séjour dans le département de la Seine.
Eh oui, alors voilà donc notre proxénète au chômage, quoi.
Ah oui, et lui qui est originaire de Haute-Saône, eh ben, il retourne dans son département natal sans le moindre enthousiasme, parce que ce n'est pas un bucolique.
Mmh. Et alors c'est ce retour en fait dans sa région d'origine qui va créer les conditions du drame. Il continue son beau métier, non
c'est pas... Bon, vraiment, ouais. Il n'aurait pas demandé ouais. mieux, mais il ouais. est astreint à résidence dans une zone rurale.
Ouais.
Bon, alors il retrouve son milieu naturel, ce sont les bars. Ouais. Il y a un petit milieu dans les à Dijon, à Besançon, à Mulhouse, mais bon, ouais, c'est pas Pigalle.
Ils se vendent beaucoup quand même parce qu'il crée sa légende. Hein. Il a connu Pierrot le Fou.
Bah, c'est un comment dire, c'est un héros de série noire. Alors il se retrouve transplanté en pleine campagne. Bon, ça c'est justement c'est cette incongruité qui fait le charme, non, l'intérêt du personnage.
Ouais.
Alors ils se vendent beaucoup, ils se vendent d'avoir été le lieutenant du célèbre Pierrot le Fou.
Ouais.
Alors, ils
C'était
ont trinqué.
Pierre Loutrel. Hein,
exactement. Ça. Ils ont trinqué ensemble plusieurs fois. Ce qu'il était, son meilleur ami. Bon. Mais.
Alors, il fréquente les bars. Il a quand même quelques économies. Il rencontre une femme.
Une femme. Il a multiplié. Enfin, il a.
Oui, parce qu'il avait une belle gueule. Hein,
Gueule.
Il avait ce côté vieux baroudeur du milieu, etc. Bon, il c'était un peu.
Disons qu'il faisait, il tranchait sur son entourage. Donc,
oui.
Il a eu une dizaine de succès, dont une femme qu'on appellera Hélène.
Bon, alors qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, je vous laisse raconter, parce que avec cette Hélène, il va avoir des relations au départ tout à fait...
bon, un peu Roméo et Juliette.
Bon, un peu agité, bon, d'accord.
Alors,
mais bon.
Comme celle de l'Antiquité, oui. Hélène était déjà mariée, elle avait deux enfants,
ben
c'était
oui.
une épicière.
Oui.
Bon,
elle avait quitté son mari, non ?
Ben oui, bon. elle était tombée amoureuse de lui. Alors... Après, elle dira, c'est lui qui m'a forcé, bon.
Ouais.
Et pendant effectivement plusieurs mois, ils avaient vécu ensemble. Et puis, comme elle a constaté que cohabiter avec un ancien proxénète, ça n'avait rien d'idyllique, elle était retournée sur la pointe des pieds, avec retrouver ses deux enfants et son mari. Bon,
ouais.
A priori, fin de l'idylle.
Ouais.
Mais M. Marcel... qui avait repris son vrai nom d'Alexandre, l'a très mal pris.
Oui, voilà, ça l'a énervé. Alors, il a fait la tournée des bistrots, comme d'habitude. Et puis, un matin, à 6h30 du matin... Alors, il faut dire, on ne l'a pas dit, mais la mère d'Hélène, elle est garde-barrière.
Exactement.
Hein,
c'est un métier qui a disparu aujourd'hui. Elle tenait vaillamment, c'était une femme... Elle avait déjà la cinquantaine passée. Mmh. Elle tenait vaillamment son poste de garde-barrière, là, sur la ligne Paris-Bâle. Alors... Hélène avait disparu. On saura plus tard qu'elle avait retrouvé retrouvé son mari.
Oui.
Mais Monsieur Marcel se débarque donc à l'aube du 22 mars 67 au passage à niveau chez la mère d'Hélène.
À bord de sa Dauphine Gandini, après avoir passé la nuit à boire, il est 6h30 du matin, et ces malheureux vont vivre un cauchemar, parce que, en fait, on en apprend en vous disant sur le métier de garde-barrière, c'est 12 heures de travail par jour, donc
oui.
Il faut, c'est comme on fait des quarts, comme un peu comme
Exactement.
Dans les bateaux, bon, et il y en a une qui fait la nuit, l'autre qui fait le matin, et en général, la garde-barrière réunit tout le monde vers 7h du matin.
Elle avait une deuxième fille, elle avait la cousine qui allait partir à Lure, il y avait également un employé de la SNCF, bref, c'était un petit déjeuner très convivial.
Ouais.
La Radio Luxembourg, l'ancêtre
branché,
de RTL, était branché, c'était la fin, les élections législatives venaient de se dérouler, bref, c'était la France moyenne prenant son petit déjeuner,
ouais.
Et là monsieur et... Alexandre Marcel, Alexandre
ouais.
de son vrai nom, ouais. débarque avec un flingue à la main.
Voilà, il cherche Hélène. Où est Hélène ?
Où est Hélène ? Ouais. Bah alors, il n'attend même pas la réponse. Une seconde après, il commence à défourailler comme au cinéma.
Voilà, et ça tombe de partout. Alors, il ne va pas y avoir 15 morts, il va y avoir un mort. Hein,
oui, seule la malheureuse garde-barrière, ouais. tous les autres seront blessés, mais presque miraculeusement,
ouais.
Aucun n'y laissera sa vie.
Ouais.
Même un ouvrier qui passait en vélo sur la route
oui,
se prendra une balle. balle perdue.
Ouais. Et alors, il faut dire aussi que peut-être que effectivement, il a bu toute la nuit, mais il a gardé tout son sang-froid, parce qu'à un moment, son arme va soit s'enrayer, soit il va avoir vidé le chargeur.
Tout simplement.
Il change de chargeur et il continue à tirer sur les gens. Alors, ça s'entend, évidemment. Il y a des gens qui entendent. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Pas grand-chose, parce que le PN était... Alors, c'est sur la commune...
PN, c'est passage à niveau, c'est ça.
Le passage à niveau est sur la commune de Châtenois, mais à presque 2 km du village même. On est vraiment très isolé. Ouais. Donc, à part le malheureux ouvrier qui s'est pris une balle perdue, personne ne s'en rend compte. Ouais. Même à un moment, sonnerie, un train passe. Évidemment, les barrières n'ont pas été abaissées. Par miracle, il n'y a pas d'accident.
Ouais.
Donc, ça passe à peu près inaperçu. Et une fois qu'il a... Il devait se croire au cinéma. Il rempoche son flingue.
Il remonte dans sa dauphine.
Il retourne chez son frère, où il logeait depuis une quinzaine d'années. Et puis il fait un gros dodo. Et les gendarmes le réveilleront deux heures plus tard, l'appréhenderont sans difficulté.
Voilà. Donc évidemment, il ne peut pas dire c'est pas moi. Il y a 15 témoins. Et on retrouve l'arme du crime, etc. Il va évidemment être incarcéré, accusé de meurtre, voire d'assassinat. Je ne sais plus si on lui reprochait la préméditation.
Absolument.
Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est pour un type qui n'avait pas trop de moyens, il va s'offrir, si j'ose dire, ou va s'offrir à lui, l'un des ténors du barreau de l'époque, qui est Maître Fleuriot.
Absolument. Là, ça...
Et Maître Fleuriot, quand il arrive en province pour plaider, vous dites, il arrive chez les Pecnaud.
Écoutez, presque 50 ans plus tard, Vesoul s'en souvient encore. Le procès a eu lieu en mai 69. René Fleuriot, qui était la star des avocats, il arrivait avec sa Bentley, il avait toute une smalade, peut-être 20 personnes autour de lui, c'était le monsieur, la Haute-Saône n'avait jamais vu ça, et lui-même en était le premier à être persuadé.
Alors son problème, évidemment, c'est qu'au cours du procès, comme l'autre a rechargé son arme, c'est pour ça que je donnais ce détail
accablant.
C'est très dur de lui trouver des circonstances atténuantes, et malgré tout le talent de Maître Fleuriot, qu'est-ce qu'il va prendre,
il est condamné à mort. Ça sera la dernière fois en Haute-Saône et en Franche-Comté qu'un verdict de mort est prononcé.
Voilà. Mais le président de l'époque, Georges Pompidou...
Alors, qui avait été élu pendant le procès...
Va le gracier.
Oui.
Et il va faire, en fait, au total 18 ans de réclusion. Et puis, on perd sa trace.
Oui, effectivement, il est resté en Haute-Saône quelques années, puis il est parti dans le Midi. S'il est encore de ce monde, il a 90 ans. C'est tout, je ne sais rien d'autre de lui.
Voilà. En tout cas, c'est une affaire évidemment qui a fait la une de toute la presse de l'époque. Et puis, une tuerie horrible comme ça, dans un passage à niveau, ça ne s'oublie pas. C'était la première histoire qu'on voulait vous raconter. Dans un autre un petit instant, après une pause, on va vous raconter cette fois-ci deux drames passionnels.
Et l'heure du crime sur RTL.
Alors, il y a un instant, avec mon invité Bernard Rodecloque, qui est un historien, vous l'avez compris, passionné d'histoire criminelle et qui signe aux éditions de Boré les grandes affaires criminelles de Haute-Saône et du territoire de Belfort. Il a réuni dans ce livre une bonne quarantaine d'histoires criminelles à travers toutes les époques. Là, on était à la fin des années 60, il y a un instant. On va continuer à remonter le temps ensemble. On arrive dans les années 35, 36, 37. On est là dans un endroit, un village qui s'appelle Mignat-Villers,
c'est la même.
Alors, il y a peut-être des gens qui habitent Mignat-Villers et qui nous écoutent cet après-midi. Eh bien, ce village a été le théâtre d'une terrible histoire d'amant tragique, de crimes passionnels. Moi, je l'aurais appelé le paysan, l'instit et le bel officier.
Oui,
et le héros involontaire de l'histoire et l'assassin s'appelle Ernest et c'est un paysan.
Oui, c'est un paysan, un fermier de Mignat-Villers, un type qui avait du bien, quelqu'un de... Nous sommes en 1936, il avait 24 ans, c'était quelqu'un, manquait pas d'instruction, et en 1935, une nouvelle institutrice est nommée dans le village.
Ah oui.
Madeleine, de son prénom, et très vite, une idylle qui n'est pas platonique, va se nouer entre les deux jeunes gens.
Oui, mais c'est un petit pays. Alors, il y a le Candiraton, ils veulent pas trop qu'on en parle. Alors, ils se voient un peu en catimini.
On est discret, mais bon.
Mais tout le monde le sait, en fait.
Oui, effectivement.
Eux croient se cacher, mais tout le monde
le sait. C'est un secret de polichinelle, mais qui est plutôt bien vu. Après tout, c'est un beau couple. Ils sont sympathiques l'un et l'autre.
Et alors, évidemment, lui, il tire des plans sur la comète, parce que c'est un type qui aime la campagne. Il aime son métier.
Absolument.
De cultivateur.
Il a travaillé 2 ans à l'usine. Il n'a pas gardé de bons souvenirs. Il aime le travail des champs.
Et donc, lui, il rêve de quoi ? Une bonne ferme, une femme qu'il aime, des enfants en perspective, certainement, et puis une vie qui devrait être un long fleuve tranquille.
Pour lui, c'est l'idéal. Malheureusement pour lui, Madeleine n'est que provisoirement dans le village. Elle ne tient pas du tout à y rester, à passer sa vie à la campagne. Elle, c'est la ville qui l'attire.
Voilà, et elle a été mutée et nommée dans ce village. Donc elle rêve, elle, d'ailleurs. Et lui ne le sait pas, vraiment. Ça.
Il ne veut pas le savoir. Elle lui dit, mais il espère la convaincre du contraire. Il espère lui montrer que son bonheur, en fait, c'est le bonheur est dans le pré, comme on ne dit pas encore à l'époque.
Et puis alors, petit à petit, les relations se distendent un peu. Elle dit, je ne suis pas libre, tel jour, non, il ne faut pas venir. Jusqu'à ce jour de juillet 1936, où carrément, lui prend son courage à deux mains.
Alors, il dit, puisqu'elle veut vivre en ville, eh bien, j'irai à Paris. C'est un gros sacrifice pour lui. J'irai vivre à Paris, je trouverai bien du travail. Et puis, une fois que j'en aurai, je la fais venir, on se marie.
Et on va peut-être pouvoir enfin se marier. Et alors, elle lui dit pas non, mais enfin, bon... Il part à Paris, et là, il n'y a pas de travail. En fait, on est en 36, c'est la crise économique.
C'est la crise économique. Ouais. Lui, il n'a pas de métier. Enfin, il est paysan. À Paris,
Il aime la vie au grand air.
Il a la nostalgie. C'est un personnage de la littérature italienne qui s'appelle Marco Valdo, un paysan transféré bien malgré lui à la ville. Ouais. Ernest, il est un peu comme ça. Ouais. Et en décembre, on est en 1936 toujours. En décembre 1936, il n'y tient plus. Il laisse tout tomber, il saute dans le train Paris-Mulhouse, il débarque à la gare de Lure et il retrouve son village et Madeleine.
Alors le village c'est Lure effectivement.
Mignavillers. Lure, c'est la petite ville, Lure, c'est la gare.
D'accord. Lure, c'est la gare, et il va même à pied à l'époque de la gare au village. Il faut dire une chose, c'est que pendant qu'il cherchait du boulot, il a trouvé des petits boulots à Paris.
Bon, pas une situation.
Mal payé, etc. Mais enfin, quand même, il lui écrivait 3 à 4 fois par semaine. Et on peut dire que c'est un type intelligent, mais qui était quand même.
Il n'a pas beaucoup d'instructions. Il a quitté l'école à 12 ans, comme presque tous les campagnards à son époque.
Alors, au début, quand il lui écrit 3-4 fois par semaine, elle répond de temps en temps, puis elle répond un peu moins, et puis plus du tout. Ah. Et quand il décide de rentrer, ça fait longtemps qu'elle lui a pas répondu.
L'histoire est banale.
Alors, il veut lui faire une surprise.
Et malheureusement, l'école est déserte. On est un samedi soir, l'école est déserte.
Il passe même pas chez les parents, il va direct à l'école.
Absolument. Et puis alors, il demande à tout le village, mais où est Madeleine ? Où est Madeleine ? Où est Madeleine ? Alors, tout le monde est plutôt gêné, certains sont moqueurs, et puis on finit par lui apprendre la vérité. Madeleine, elle est à Lure, elle est en train de se fiancer.
Alors, oui, parce qu'elle a rencontré, mon bel officier qui arrive. Et un officier, c'est quoi ? C'est une promesse de sortir de ce cadre, parce qu'un officier, ça voyage de régiment en régiment, et puis ça gagne un peu plus d'argent qu'un cultivateur aussi. Et il est beau, alors, ce militaire. En tout cas, il lui a beaucoup plu à Madeleine.
Malheureusement, ils étaient en train de se fiancer et elle a déjà demandé sa mutation pour Metz.
Voilà. Et lui, alors évidemment, les bras lui en tombent, comme on dit, soit le toit sur la tête. D'autant plus, ce qui est quand même terrible, ses parents avaient anticipé le mariage. Ils avaient déjà acheté la chambre des époux, quoi. Ils avaient dépensé de l'argent, ils avaient cassé leur tirelire pour ça. Donc, lui, il rentre dans une rage épouvantable.
D'abord, c'est compliqué. D'abord,
un abattement.
Oui, effectivement. Pendant tout ce dimanche, il va pleurer dans toutes les... il est désespéré. Et puis, ses parents essaient de lui changer la vie, de lui changer l'esprit en l'emmenant à la foire.
Oui, on lui dit, allez, une de perdue, 10 de retrouvée. Ça va passer.
Dire ça à quelqu'un en plein chagrin d'amour, ça marche pas. Alors il s'enfuit à Lure, encore une fois. Il s'étourdit d'alcool et diverses aventures.
Puis il se dit, et ça c'est une réaction très masculine, puisque c'est comme ça, je vais au bordel. À l'époque, les fameuses maisons dites de tolérance. Et là, il rencontre la belle Suzy. qui est la prostituée de service. Et il monte dans la chambre avec elle, mais il ne peut pas lui faire l'amour. Il est trop désespéré.
Bah oui, il a surtout envie. Il faut se confier. Il faut qu'il.
Il s'épanche sur l'épaule de la prostituée. Il lui raconte ce qui vient de lui arriver.
Fille, d'ailleurs, elle lui dit te fais pas de soucis, ça passera, etc.
Mais là, la prostituée va appeler même. Il y a une petite sonnette pour avertir le. Il y a une sécurité dans les bordels. Et elle a peur. Elle a pas peur pour elle, mais elle a peur pour lui, quoi. Parce que qu'est-ce qu'il.
Parce que il faut dire, en arrivant à Lure, la première chose qu'a fait Ernest, c'est en passant devant une armurerie, c'est il s'est acheté un pistolet de petit calibre, mais un pistolet tout de même. Ouais. Et plus ou moins ivre de désespoir, à la maison close, il le brandit en proclamant qu'il va faire un massacre.
Je vais la tuer et je vais me tuer après. Voilà. Là, donc, elle a appuyé entre-temps Suzy sur le petit bouton de la sonnette. Il y a un type, une armoire à glace qui arrive, c'est son métier. Il le met délicatement sur le trottoir. Délicatement, enfin.
Mais sans avertir la police.
Ben oui. Discrétion d'abord. Ouais. Et ça, malheureusement, ils auraient dû prévenir la police. Qu'est-ce qui se passe après ?
Bon, après, ils passent la nuit dans un hôtel. Ils se saoulent systématiquement. Ils passent la nuit dans un hôtel. Ils se réveillent le lendemain, on est mardi, vers midi, 13h. Ils louent un vélo et ils retournent à Mignavillers. Toujours avec son flingot. Ouais. Il va tout droit à l'école.
À l'école, il passe même pas chez lui.
On est au fin décembre, donc il fait déjà nuit noire. Et par la fenêtre de la classe, il voit sa Madeleine en train de corriger cahiers des élèves. Ouais. Il rentre, et après un dialogue qu'on devine plutôt tendu, il tire quatre... Alors, il était tellement mauvais tireur que c'est presque un miracle qu'il l'ait touché, mais il finit par la tuer. Ouais. Et ensuite, fidèle à sa parole, il va s'asseoir sur son ancien banc d'écolier, une quinzaine d'années plus tôt. Il se tire une balle dans la tête.
Il se rate.
Mais il se rate.
Mais il se blesse très grièvement. On va retrouver la lettre d'adieu qu'il avait déjà. Vous l'avez eu en main, cette lettre. Enfin, absolument, vous l'avez consultée, lettre. Où il dit, voilà.
Il a une lettre à ses parents. Je suis désolé, je suis votre fils unique. Je sais que, mais moi, je n'ai plus la force de vivre. Elle m'a trahi. Enfin, bon, bref, toutes les lettres de désespoir amoureux. Donc, bon, des paysans, c'est juste à côté de l'abreuvoir de Mignavillers, des paysans qui abreuvaient leurs bêtes. Madeleine est morte, mais Ernest vit encore.
Il a perdu un œil, il marchera avec une canne jusqu'à la fin de ses jours. C'est dans cet état-là qu'il arrive dans le box des accusés. Là, il commet une petite erreur stratégique. Il parle de cette malheureuse Madeleine comme une espèce de messaline qu'elle n'était pas, évidemment. Mais finalement, il va finir par émouvoir le jury.
C'est cela. Ce type, d'abord, il n'agit que par désespoir amoureux, et puis ensuite il est tellement c'est comme Samson, quoi. Il est borgne, il est sourd, il ne peut plus se déplacer qu'avec une canne. Pour un paysan de l'époque, ne plus pouvoir travailler, c'est la ruine. Donc on décide qu'il est assez puni comme ça et il est acquitté.
Voilà, et il n'était pas défendu par Maître Florio. On se retrouve dans un petit instant après une nouvelle pause.
Et l'heure du crime sur RTL.
Alors nous continuons à explorer ces affaires criminelles en remontant le temps avec mon invité Bernard Hautecloque. On a commencé cette émission avec un drame de l'alcool, l'affaire de la tuerie du passage à niveau. On a continué avec ce crime terrible à l'instant, ce crime passionnel finalement entre cette institutrice et ce paysan. On va maintenant, évidemment, continuer à explorer la palette des passions humaines. On arrive au crime crapuleux, à l'appât du gain, et presque au crime pour rien, parce que comme d'habitude dans ce genre d'affaires,
crime crapuleux, il y en a pas un sur 100 qui paie.
Alors ça se passe où ? Ça va se passer. En tout cas, la victime, c'est un boulanger. Oui. Et alors, en plus, extraordinaire, dans le même village, il va y avoir deux meurtres à quelques jours d'intervalle.
Attention à ne pas froisser les susceptibilités locales. Lure est une sous-préfecture.
C'est pas de leur faute.
Lure est une sous-préfecture, donc une petite ville.
Pas un petit village, d'accord.
Et le 27 septembre 1913, on est six mois avant la guerre de 14, deux crimes crapuleux par un hasard extraordinaire, vont s'y dérouler, dont justement l'assassinat, vous y faisiez allusion, du boulanger Copatay. Boulanger en plein dans la grande rue de Lure, bref, une personnalité.
Et une success story, c'est un type qui est venu là, il s'est marié, il a des enfants, les affaires marchent bien, il fait du très bon pain. Et puis un jour, le mitron, qui est un type talentueux, qu'il aime bien, qu'il a même augmenté, etc., lui dit je veux partir, je veux aller vers d'autres horizons.
Je vais devenir boulanger à mon tour.
Et il est obligé d'engager, un peu comme ça, rapidement, quelqu'un. Et en fait, lorsque le mitron numéro 2, si j'ose dire, arrive, la femme du boulanger le trouve
sournois,
n'aime pas. Mais il n'y a personne d'autre.
C'est un bon ouvrier. Ouais. Bon,
alors, il est d'origine italienne.
Hein, alors, effectivement, il est né en Alsace à l'époque... Pardon. Il est né en Alsace à l'époque allemande, mais il est de nationalité italienne. Ce qui fait qu'il parle un français correct, mais très fortement accentué.
Voilà.
Bon. Deux semaines, on est le 27 septembre, deux semaines après, c'est la fête à Lure. Mmh. Et là, ça va vraiment mal se passer. Madame Copatay avait, de bonnes intuitions.
Oui, alors voilà, ce qui s'est passé, il faut remonter avant cette fête. En fait, qu'est-ce qu'a découvert le nouveau mitron? Parce que le boulanger, c'est un brave type, sympa et tout, passionné par son métier. Et là, il a cassé sa tirelire, il est allé chercher de l'argent, il a emprunté pour ça, en petite coupure, parce que il veut acheter un pétrin électrique.
Mais oui,
et là, on est en...
1913, mais l'électricité vient d'être installée à Lure.
Donc c'est le top du top, là.
L'électricité, ne suffit pas, ne sert pas qu'à s'éclairer, mais également à factionner des machines.
Voilà.
Avant, presque tout devait se faire à la main.
Ouais.
Donc, puisqu'il a de l'argent, il
réunit 5000 francs parce que le vendeur de la fameuse machine, le type veut être payé en cash.
Bon. Absolument. Et 5000 francs de l'époque, c'est 20 000 euros d'aujourd'hui.
Et il en parle
à son mitron.
Donc le mitron, c'est quoi? C'est qu'il y a quelque part 5000 francs qui sont dans un tiroir, quelque part. Et la nuit qui précède la fameuse fête, ou la nuit qui suit la fameuse fête, je ne sais plus.
Celle qui la suit.
Celle qui la suit.
La nuit du dimanche à lundi.
Comme il y a beaucoup de gens dans la ville, beaucoup de gens qui achètent du pain, etc., faut vraiment pas chômer, quoi. Donc, il travaille. Et puis, ce soir-là, comme d'habitude, le boulanger, lui, il va se coucher très tôt, parce qu'il va se relever à 2h du matin ou à 3h du matin. Et le mitron, lui, il est censé arriver pour préparer...
Pour l'aider à préparer le pétrin, etc.
Alors, il est passé, il a fait un détour par la fête foraine, il arrive tard...
Il a pas mal bu aussi, mais il a pris une décision fatale, c'est de tuer toute la maisonnée pour mettre la main sur ses 5000 francs.
Voilà. Alors, comment ça se passe
Alors, très sordidement, il pêche pas par subtilité.
Pardonnez-moi, je vous interromps, on n'a pas dit une chose importante. Il y a la maison où habitent le boulanger et sa famille, et le fournil est à quelques dizaines de mètres. Enfin, c'est pas tout à fait derrière.
Disons que ce sont deux bâtiments séparés.
Et le boulanger dort sur un lit de camp dans le fournil.
Exactement.
Sa femme, elle est enceinte.
Elle est enceinte de 7 mois.
Et elle a un autre enfant.
Alors, elle a deux enfants, et surtout, sa sœur est venue lui donner un coup de main pendant sa
Donc, dans la maison, il y a deux femmes, une enceinte des petits-enfants, et dans le fournil, il y a le boulanger qui va être assassiné sauvagement.
Le mitron prend une hache et il l'abat sur la tête du boulanger qui meurt sans se réveiller.
Voilà. Alors, évidemment, il commence à fouiller la maison, et il ne trouve rien, et c'est là où on est dans un film à la Hitchcock, quoi. Il monte l'escalier, il frappe à la porte de la chambre.
Avec sa hache à la main. Et puis il demande à sa patronne, alors sur des prétextes les plus farfelus, ouvrez-moi, il me faut à manger, il nous faut à boire.
Alors la sœur qui est avec sa sœur, donc, lui dit n'ouvre pas. Là, elle se méfie. Quoi. Où est mon mari? Allez appeler mon mari. Et Marie, évidemment,
il est en train de travailler. Ouais. Bref, ça devient de plus en plus suspect. Et les deux femmes passent toute une nuit blanche, agrippées l'une à l'autre, en se demandant comment ça va finir.
Il va bien falloir qu'elles sortent de leur chambre, ce qu'elle fait, en tout cas la femme du boulanger, tôt le matin.
Oui, et à 5h du matin, elle se dit, bon, mon mari... Parce qu'elle n'a pas encore compris que son mari était mort. Pour elle, son mitron est rentré complètement sous de la fête foraine, alors il fait n'importe quoi. Ouais. Bref, elle va voir son mari pour lui expliquer, pour lui demander de le mettre à la porte, séance tenante. Elle cherche son mari partout. Elle rencontre le mitron, toujours avec sa hache à la main, qui lui donne un furieux coup de hache sur la tête, mais elle est sauvée par son chignon.
Voilà, parce que c'est à la mode à l'époque.
Absolument,
c'est un grand chignon.
Les élégantes belles époques avaient des cheveux qui leur tombaient sur leurs chevilles, mais elle les... Comment dire elle les maintenait dans un chignon qui faisait parfois plusieurs dizaines de centimètres de haut. Voilà. Et c'est ce qui lui sauve la vie.
Et lui, il pense qu'elle est morte, donc il se méfie plus. En fait, elle est vivante. Et je crois qu'il veut remonter pour aller tuer la sœur et les bébés. Et évidemment, la femme réussit à appeler au secours, faiblement, mais suffisamment, pour que les secours arrivent. Et puis la suite, la suite,
c'est... Il s'enfuit en chaussettes sur la route de Saint-Germain.
Il est rattrapé par un gendarme à bicyclette. Il est parti, tellement vite qu'il avait même pas de chaussures, c'est ça. Et des gens qui l'ont vu, qui l'ont signalé à la gendarmerie. Et puis, il va être exécuté. Alors, on va faire une dernière pause dans cette émission. Et dans un petit instant, on va vous raconter, si on en a le temps, deux histoires. L'une qui montre que la rumeur et la calomnie peuvent avoir des effets terribles sur une famille. C'est une des histoires que vous racontez. Et puis l'autre, c'est c'est un péché d'orgueil, si j'ose dire. C'est une vengeance, la vengeance d'un militaire qui a été viré par son patron.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
C'est la dernière partie de l'émission. Nous sommes en compagnie de Bernard Hauteclocq, historien passionné d'histoire criminelle qui publie chez Deboré Éditions, qui s'en est fait une spécialité des crimes à travers les départements. Et bien là, ce sont les grandes affaires criminelles de Haute-Saône et du territoire de Belfort. On a commencé au début de l'émission, Bernard Hauteclocq, dans les années fin des 67. Années 60. Et là, on va être en 1880-83, c'est-à-dire largement avant le début du 20e siècle. On est dans un endroit qui s'appelle Delle, alors je veux fixer personne.
Juste ville à la frontière village, alors. Suisse. Alors c'est une petite ville, juste à la frontière suisse.
Ouais. Donc dans la petite ville de Delle. Et il faut dire que un petit peu après la guerre de 1870, il y a un industriel qui était assez moderne déjà à l'époque, puisque il était à Réchésy avant, puis il avait délocalisé son usine parce que ça l'amenait près d'une voie de chemin de fer.
Oui, c'est ça.
Et donc ses affaires marchaient bien, son usine marchait bien, et c'était un type qui était jeune marié, l'avenir vraiment était très prometteur. Tout ça va véritablement voler en éclats à cause d'une stupide histoire. Il a beaucoup d'ouvrières, beaucoup de femmes qui travaillent pour
lui. C'est un industriel du textile, donc un personnel surtout féminin, sauf un contremaître. Voilà. Un ancien soldat, Georges Bender.
Alors, quel soldat? Il a fait la guerre de Crimée, la guerre d'Italie, la guerre de 70. C'est un type à l'ancienne avec les moustaches en guidon de vélo à l'envers, si j'ose dire.
Un brave à trois poils, comme
on dit. Il aime le vin. Et puis alors, les dames, n'en parlons pas. Ah. C'est un véritable harceleur. Il se prend pour un don juan, mais surtout, il harcèle littéralement les malheureuses jeunes employées.
Qui
s'enferment pour qu'ils ne viennent pas, quoi. C'est ça, non?
Oui. Et à l'époque, il n'y avait pas de loi sur le harcèlement sexuel. Lui en profite plus qu'un peu. Et son patron n'aime pas trop, mais un beau jour, il le prend sur le fait. Et là, il prend un coup de colère. L'ouvrière est renvoyée aussi, soit dit en passant.
En pleine journée, quoi. Le patron, il ouvre une porte et derrière, il y a le contremaître, Bender, il s'appelle, avec cette malheureuse ouvrière. Donc là, c'est scandale absolu. Il vire les deux, c'est ça.
Exactement. Ouais. Comme ça, pas de jaloux. Mais Bender est mortifié pour cet ancien sous-officier, se faire renvoyer, c'est quelque chose qu'il ne peut pas assumer.
Il aurait accepté, évidemment, des remontrances, retenue sur salaire, tout ça, mais se faire virer, quel déshonneur, en fait.
Absolument.
Et c'est pas parce qu'il manquerait d'argent ou qu'il manquerait de retrouver un boulot, parce qu'il est retraité, il a de l'argent,
il a une belle pension militaire, il est propriétaire de sa maison, sa situation n'a rien de tragique, mais il ne peut pas supporter cette atteinte à son honneur.
Alors il va harceler cette fois-ci, et pas sexuellement, le patron, mon patron, en revenant régulièrement pour lui dire allez, passez l'éponge, je reviens. Et l'autre refuse.
Il reste ferme.
Et c'est la cause du drame.
Le 15 juin 1883, Bender ressort de la naphtaline son fusil de soldat et il organise un guet-apens un peu avant l'usine de son patron, et Monsieur Lopin se prend une balle en pleine poitrine.
C'est terrible, hein, parce qu'il l'a attendu, donc c'est vraiment prémédité, il l'a attendu à la terrasse d'un bistrot, il a caché son fusil dans une haie, et quand il voit arriver le patron, il va chercher son fusil, et là, et qu'est-ce qu'il lui dit alors ?
Alors, il le menace, on n'a jamais tout de suite, su, hein,
parce mais ça dure quelques secondes. Hein,
exactement, ils ont eu un dialogue de quelques dizaines de secondes. Selon la version de Bender, le seul survivant, son patron l'a insulté et il n'a pas pu supporter. C'est ça qui l'a poussé à, comment dire, à presser la détente.
Ouais.
Bon. Il n'est pas impossible que, en fait, Bender avait prémédité son crime et après quelques répliques sans importance, il a, comme il en avait l'intention depuis le début, pressé sur la détente.
Tiens, alors il le blesse mortellement parce que, enfin, voilà. Le malheureux va mourir dans l'après-midi à l'hôpital. Évidemment, ça se termine en cour d'assises.
Oui.
Et là, alors, il est condamné à mort. Hein. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Il est gracié ou...
Alors oui, il est gracié, parce que son avocat a fait remarquer ce brave
La France lui doit tant, ce type.
Absolument, on est une dizaine d'années après la guerre de 70. L'Alsace annexée est à quelques kilomètres. Donc, le président de la République le gracie, ce brave qui a risqué 100 fois sa vie pour sa patrie, mais il est condamné à la déportation en Guyane.
En Guyane, oui, voilà. Bon, où on perd sa trace, en fait. Alors, il nous reste 2 minutes, mais j'ai vraiment envie de raconter, on aurait eu envie d'en raconter beaucoup d'autres, là on a pratiquement plus le temps parce que dans 2 minutes l'émission est terminée, mais juste dire, c'était ce qu'on voulait aborder, mais je renvoie tout le monde à votre livre prendre connaissance en détail de cette histoire, mais c'est de montrer comment, là on est encore avec un patron.
En 1910, à Fresnes-Saint-Mamès.
Voilà, oui. Qui vient d'Alsace-Lorraine. Donc l'Alsace-Lorraine, c'est à l'Allemagne, à l'époque, on est avant la guerre de 14. Hein.
4 ans avant.
Ce type, il n'a pas demandé la nationalité française.
Il est patron, il est étranger, il n'a pas un caractère sympathique.
Est-ce qu'il ne ferait pas partie de la 5e colonne ? Il y a des gens dans le village qui disent oui, il a mis des marques dans les champs pour les avions allemands, etc. etc. Et il va y avoir, très rapidement, dire que dans la maison de cet homme, qui est une belle maison, alors qui est un type épouvantable, hein.
Pas sympathique du tout.
Oui,
la victime n'est pas toujours sympathique.
Ah oui, parce que bon, son enfant tombe malade. Il y a
quelqu'un de très dur, très cynique, très et asocial. Voilà. Avoir des contacts avec les autres, ça l'intéresse pas. Et il le dit avec une franchise très brutale. Voilà. Bref, détester tout son village.
Voilà. Et là, un jour, il y a un accident, ce qui passe pour un accident. Et disons tout de suite ce qui est un accident. Il y a un petit garçon qui est là, qui joue dans le parc. Et puis à un moment, le patron qui est là, le propriétaire des lieux, appelle quelqu'un qui travaille pour lui, qui est en train de nettoyer une fosse dans laquelle il y a de l'eau. Il lui demande de l'aider à faire quelque chose. L'autre vient, mais il ne ferme pas la fosse. L'enfant tombe à l'eau et meurt.
Il nous noie.
La suite, on ne va pas la raconter parce que l'émission est terminée. Non. Simplement, la rumeur publique, la mauvaise réputation, fait que tout le monde va penser qu'il s'agit d'un crime maquillé en accident. Et qui est l'auteur du crime ? Évidemment, tout le monde dit, c'est le père. Pour savoir comment se termine cette histoire, il faut lire le livre de Bernard Hauptberg. Je vous remercie beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Merci infiniment. Et voilà, et vous nous avez montré que ces affaires largement oubliées méritaient vraiment à la fois un livre et certainement une émission de radio.
Merci.
Les grandes affaires criminelles de Haute-Saône et du territoire de Belfort viennent de paraître aux éditions de Boré. L'émission est terminée. Et nous retrouvons dans un petit instant, poignée de secondes, Flavie Flamand.